Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute de votre émission. Et nous retrouvons Francis Laloupo à Paris. Bonjour Francis.
Bonjour Liliane, j'espère que vous allez bien à Dakar. Bonjour à toute l'équipe de BBC Afrique et bien sûr, bonjour à nos auditrices et auditeurs fidèles à ce rendez-vous de l'information.
Merci, je vous confirme, tout le monde va bien à Dakar, Francis. Suspension de l'installation des sénateurs, interpellation de députés provinciaux présumés corrompus dans le cadre des sénatoriales, libération de prisonniers politiques, remplacement du patron du renseignement. Le président congolais, en 2 mois de pouvoir, a multiplié des actes. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il pour autant réussi à marquer son territoire? Décryptage dans cette émission. 3 jours d'intenses et d'âpres discussions à Addis Abeba entre groupes armés et gouvernements centrafricains sous la direction de l'Union africaine ont abouti à un nouvel accord de sortie de crise. Les groupes armés qui réclamaient une meilleure répartition des postes ont obtenu gain de cause. Un nouveau gouvernement plus inclusif devrait être formé dans les jours à venir. Cette fois, est-elle vraiment la bonne? Et l'Union africaine parviendra-t-elle à imposer une paix définitive en Centrafrique? Débat à suivre. Paul Biya sur une photo avec celui qui était alors le président américain George Bush père en 1991. C'est le cadeau controversé que lui a remis le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, à l'issue d'une audience lundi avec le président camerounais. La toile s'est emparée du sujet. Certains y ont vu un moyen diplomatique pour Washington de lui rappeler sa longévité jeûnante au pouvoir. Pour d'autres, il s'agit d'un simple cadeau qui ne devrait pas susciter de commentaires désobligeants. On verra quelle sera l'analyse de nos invités. Le plateau, c'est avec vous, Francis.
Oui, Liliane, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Jacquemain Chabani, président de la commission électorale permanente, autrement désignée centrale électorale de l'Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. Jacquemain Chabani, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. Vous militez depuis 1992 au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du nouveau président de la RD Congo. Félix Tshisekedi, parti historique au demeurant, parti de l'opposition en RD Congo, fondé par le défunt Étienne Tshisekedi. En 2011, vous avez été investi au poste de secrétaire général de ce parti et vous êtes actuellement le président de la commission électorale permanente, dite centrale électorale de ce parti. Vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, Jacquemain Chabani. Avec nous également au téléphone depuis Bangui, notre confrère invité, Albert Mbaya. Albert Mbaya, bonjour.
Bonjour, confrère.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant en Centrafrique. Voilà pour le plateau, ma chère Liliane. C'est
et
à
merci.
Vous à Dakar.
Merci. Nous allons commencer avec la RDC. Francis, des militants de l'UDPS, parti au pouvoir, ont bruyamment protesté à travers la République démocratique du Congo contre les résultats des sénatoriales qui donnent la quasi-totalité des sièges au FCC de son prédécesseur Joseph Kabila. Pour les militants de l'UDPS, seule la corruption peut expliquer une telle situation. Le président Félix Tshisekedi, en réponse, a pris une série de mesures sur lesquelles revient le correspondant de BBC Africa à Kinshasa, Paulie Mouzalia.
3 mesures ont été prises ce lundi, indique Basile Olongo, le ministre de l'Intérieur. En premier lieu, c'est le report sine die de l'élection des gouverneurs qui devait avoir lieu à la fin de ce mois. Ensuite, l'installation du nouveau Sénat élu qui est suspendu. Enfin, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, demande au procureur d'enquêter sur les allégations de corruption qui ont émaillé l'élection des sénateurs. Ces mesures ont été prises à l'issue d'une réunion entre le président de la République et les dirigeants des principales institutions publiques. Étaient notamment autour de la table le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat ou encore le chef de la commission électorale. Ces décisions sont prises 2 jours après de violentes manifestations contestant les résultats des élections sénatoriales sur fond d'allégations de corruption. Le Front commun pour le Congo, la coalition de l'ex-président Joseph Kabila, a remporté près de 80% des sièges, alors que la coalition de l'actuel président Tshisekedi ne compte que 3 élus au Sénat. La coalition pro-Kabila a toutefois conservé le contrôle des assemblées nationales et provinciales. Paulie Mouzalia, BBC Afrique, Kinshasa.
Voilà. Monsieur Chabani, avant d'entrer dans le vif du débat concernant les décisions du président Kabila, est-ce que ces décisions dont vient de parler le correspondant de BBC Afrique émanent du président congolais ou de celui qui était, jusqu'à son élection, chef de parti, c'est-à-dire président de l'UDPS?
Non, le président Félix Tshisekedi n'est plus le chef du parti. Je crois que avant sa prestation de serment, il s'est libéré de la gestion du parti politique. Actuellement, il n'a pour responsabilité que celle du chef de l'État.
Oui, il a passé la main à Jean-Marc Kaboun. Je pose la question parce qu'il y a un contexte. Il y a eu des manifestations de protestation de la part des militants de l'UDPS et c'est pour répondre à ces manifestations que le président a pris cette décision ou ce n'est pas le cas?
Non, pas du tout. Je crois que c'est une lecture partielle de la situation. Il faut se rappeler qu'avant le scrutin des sénatoriales, le procureur général de la République lui-même a tiré la sonnette d'alarme par rapport aux informations qui parvenaient à son office sur des cas avérés de corruption qui entouraient la campagne électorale des sénatoriales. Au-delà du procureur général de la République, plusieurs personnalités, candidats, surtout des FCC, se sont démarquées de ces élections sénatoriales tout en dénonçant des cas de corruption qu'ils ont vécu pendant la campagne électorale. Donc ce n'est pas une question qui concerne le parti politique du PS, c'est une question qui concerne toutes les organisations politiques, tous les acteurs, les candidats et les électeurs de ces élections du Sénat de la République démocratique du Congo. Ça, à cela, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la mise en place du Sénat, l'installation du Sénat a pour soubassement, selon les informations qui circulent et auxquelles on a demandé au parquet d'enquêter finalement, a pour soubassement la corruption. Et je crois que toute personne est prise de justice doit trouver ça extrêmement grave. D'autant plus que le président de la République, Félix Tshisekedi, a, durant sa campagne et même lors de sa prestation de serment, fait la promesse d'éradiquer ce fléau qui gangrène la République démocratique du Congo.
Jacquemin Chabani, vous dites que voilà, le président Tshisekedi n'a pas pris cette décision après la forte contestation, voire la colère des militants de son parti, mais il semble que c'était un peu. Les sénatoriales ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ces militants. Et après les très faibles scores de votre parti aux législatives et aux provinciales, et puis voilà, il y a le projet de coalition gouvernementale qui se confirme avec l'ancien pouvoir, toujours majoritaire. Ma question est celle-ci, est-ce que les dirigeants de l'UDPS, est-ce que le sommet de l'UDPS est toujours en phase avec ce que vous appelez la base du parti?
Extrêmement en phase. Peut-être ce que vous devez retenir, c'est que l'UDPS est un parti de masse. Un parti qui a une longue histoire de combat pour les valeurs qui sont la démocratie, l'état de droit et bien d'autres. Dans sa méthode de lutte, l'UDPS a toujours eu pour principe un énorme respect et pour sa base, mais aussi a toujours donné un droit de parole et d'orientation venant de la base. Donc, ce n'est pas une nouveauté au sein de l'UDPS, ça s'est toujours passé comme ça. Lorsque les structures de base revendiquent, le leadership du parti a toujours l'oreille et écoute, analyse et tient compte de ces revendications.
Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'en renvoyant, inédit l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars prochain, et aussi en suspendant l'installation du Sénat, vous dites que voilà, le président Tshisekedi a agi en tant que chef d'État et non pas en tant que chef de parti. Pourtant, selon certains juristes, cette décision de suspendre l'installation des sénateurs est clairement inconstitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, il faut savoir de quel côté on se positionne. La République démocratique du Congo a une histoire et les grandes difficultés qu'elle traverse sont connues de tous. Je ne peux que prendre, par exemple, l'une des dernières déclarations de l'ancien président, M. Kabila, qui disait que l'une de ses dernières prises de position, qu'il retenait comme échec le fait qu'il n'ait pas pu changer l'homme congolais. En changeant l'homme congolais, il faisait allusion à toutes ses antivaleurs, dont la corruption. Durant ces deux mandats, et même avant, il y a eu une multitude de dossiers de corruption, comme le dossier Mapping et bien d'autres, sur lesquels il a été interpellé, mais il n'a jamais su prendre de décision.
Oui.
La différence de gouvernance avec le président Félix Tshisekedi, c'est lorsqu'il y a un dossier sale, éclaboussant, comme celui-ci, qui entache la mise en place du Sénat, il prend ses responsabilités, conformément à la Constitution qui fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions.
Et pourtant, les juristes disent que cette décision n'est pas constitutionnelle. Hein.
Elle est constitutionnelle, parce qu'elle est pour l'intérêt du Congo. Elle va dans le sens des promesses de campagne que le président Félix Tshisekedi a faites.
Donc c'est une décision d'autorité.
Il ne pouvait pas fermer les yeux à de tels actes.
D'accord.
Au prix de se faire qualifier de complice de ces actes de corruption.
Mais quel est le sens de ces mesures? Est-ce que c'est finalement pour, comme on peut utiliser l'expression, est-ce que c'est finalement pour marquer son territoire, pour exprimer son indépendance par rapport à son prédécesseur dont il serait la marionnette, selon un terme employé par Martin Fayoulou?
Bon, M. Martin Fayoulou est en campagne, donc il bat campagne.
Il est en campagne, mais l'élection est terminée, non?
Non, il bat campagne pour ce qu'il revendique. Mmh. Il bat campagne pour ce qu'il revendique.
Mais pour vous, l'élection est terminée?
L'élection présidentielle est déjà terminée. M. Martin Fayoulou a saisi la Cour constitutionnelle en contentieux judiciaire. Un arrêt a été rendu. Le président Félix Tshisekedi a prêté serment après cet arrêt. C'est une page de tournée, le Congo regarde les horizons.
Pour ne pas s'éloigner de ma question, ma question portait davantage sur le sens de ces mesures. Est-ce que le président veut exprimer son autorité et veut faire passer le message selon lequel c'est lui le véritable patron, puisque vous dites que cette décision...
Il n'y a pas de patron, il y a un président qui a prêté serment, il y a une remise reprise. La nouveauté au Congo, c'est que c'est la première fois que nous vivions une passation de pouvoir civilisé. C'est la première fois depuis notre indépendance que dans la capitale, le président cohabite, l'ancien et le nouveau, excusez-moi, cohabitent dans la même ville. Donc ça paraît un peu étrange pour plusieurs personnes. Mais au fur et à mesure, je crois qu'on va s'y habituer. Il y aura d'autres élections, il y aura d'autres mandats. Et je crois que c'est un grand pas pour la démocratie en République démocratique du Congo.
Mais le processus semble...
Marque son pouvoir et sa gouvernance, qui est extrêmement différente de celle de M. Kabila.
Mais les choses ne sont pas si simples, M. Chabani.
Ils l'ont clairement identifié. Pardon?
Je veux dire, les choses ne sont pas si simples parce que le parti de Joseph Kabila, le PPRD, dont vous êtes l'allié désormais, alors qui est quand même la première force politique de la coalition FCC pro-Kabila, a clairement rejeté le report de l'élection des gouverneurs tel que décidé par Tshisekedi, le président. Et dans un communiqué, le PPRD a indiqué que, je cite, « Le calendrier électoral est publié par la CENI. Il ne revient donc pas à un parti politique de décider unilatéralement du report des scrutins concernant les gouverneurs et vice-gouverneur de province. C'est un premier accroc quand même dans la coalition politique que vous mettez en place désormais.
Voilà des faits patents qui peuvent vous faire comprendre qu'il y a une grande différence entre l'ancien régime et le régime actuel et la gouvernance du président Félix Tshisekedi.
Mais l'ancien régime est votre allié.
Patents, voilà des faits patents qui vous démontrent que il n'y a pas un marionnette, mais il y a un président de la République.
Mais c'est l'ancien régime qui va proposer un premier ministre dans quelques jours.
Institutionnel par le président de la République qui impose et seront respectés par tous.
L'ancien régime est majoritaire aujourd'hui.
Le procureur général de la République a ouvert des enquêtes qui vont nous permettre de savoir ce qui s'est réellement passé et dégager les différentes responsabilités. Il s'en suivra après, nécessairement, je crois, la mise en place du Sénat, parce que c'est une institution importante pour le bon fonctionnement de la République, et même le personnel politique du FCC va comprendre cela parce que c'est pour l'intérêt du Congo.
Je voudrais un peu qu'on a...
Lorsqu'ils étaient au pouvoir sous la direction du président Kabila, ils avaient peut-être l'habitude de passer au-dessus des dossiers aussi éclaboussants comme celui-là. Aujourd'hui, le leadership du président Félix Tshisekedi gouverne le Congo autrement.
Mais il constitue toujours la première force politique du pays, le FCC. Hein.
Oui, effectivement, c'est tout ça que nous devons tous ensemble arriver à comprendre. La proclamation des résultats à l'élection législative nationale et provinciale a clairement déterminé les forces en présence dans les différentes assemblées. Et il est un fait que la famille politique FCC a une présence dominante au niveau de l'Assemblée nationale et dans beaucoup d'assemblées provinciales.
Merci. Je propose qu'on écoute...
Nous allons faire avec.
Voilà, on écoute Albert Mbaya, un premier commentaire sur cette situation politique en RDC, les annonces faites par le président Tshisekedi après les sénatoriales.
Bon, notre point de vue sur la situation au Congo n'est pas compliqué. En réalité, le parti du président Tshisekedi, le DPS, est en train d'être rattrapé par un environnement électoral qui n'était pas très très transparent, il faut le reconnaître. Et quand on est élu président, on est en principe libre de nommer son premier ministre et de mettre en place toute la batterie des institutions. Enfin, je veux parler des hommes de confiance qu'on doit installer pour pouvoir contrôler les affaires de l'État selon son programme politique à soi. Mais là, le président Tshisekedi a été élu d'après les résultats qu'on a connus il y a 2 mois. Mais depuis cette période, on a pu remarquer que l'homme n'a pas les mains libres, c'est la vérité, et que tout l'appareil politique du Congo est encore entre les mains du FCC. Avec le président
Mais vous venez d'écouter M. Chabani qui dire que non, que ce n'est pas le cas, que le président Tshisekedi est le seul maître à bord et que toutes les décisions qu'il prend le démontrent.
Exactement.
Non, écoutez, regardez, quel est le premier ministre du Congo aujourd'hui?
Voilà,
prenons les choses où partout, vous avez remarqué que...
Albert, permettez à M. Chabani de répondre.
Le cas du Sénat, ce n'est qu'une goutte qui vient démontrer une certaine vérité. C'est que le pouvoir du président Tshisekedi est contrôlé dans l'ombre par ceux qui l'ont précédé. Et donc, tout le système politique congolais aujourd'hui échappe au président qui est élu et qui est obligé de négocier continuellement avec l'ancien régime. Et donc, c'est un cafouillis total au Congo qui peut demain créer une crise parce que lorsque le président Tshisekedi va vouloir s'affirmer pour se défaire de cette dépendance, il aura forcément écrit le Congo.
Merci Albert. En 30 secondes, une réponse rapide, M. Chabani.
Oui, je crois que votre invité ignore certaines exigences constitutionnelles.
C'est le journaliste, c'est vous l'invité.
La mise en place du gouvernement, qui ne peut venir qu'après la mise en place du Parlement. Ce qui est en train d'être fait. Mais vous devez retenir aussi que le président Tshisekedi, dans cette période ici, a déjà eu à suspendre des ministres du gouvernement sortant, les suspendre, c'est-à-dire les sanctionner, même des responsables des entreprises publiques. Le président Félix Tshisekedi vient de désigner, de relever de ses fonctions l'ancien patron
du renseignement.
C'est des actes très forts. Bien avant cela, le président Félix Tshisekedi a fait fermer tous les cachots secrets où étaient enfermés et torturés les opposants politiques et les personnes qui s'exprimaient librement contre le régime ancien.
Merci beaucoup. On va marquer une pause obligatoire.
Vient de faire libérer les prisonniers politiques.
On va revenir dessus, M. Chabani. On marque une pause obligatoire.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Jacquemain Chabani, président de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, en RD Congo. Et notre confrère invité depuis Bangui au téléphone, Albert Mbaya, journaliste indépendant. Jacquemain Chabani, vous nous disiez avant la pause, vous nous rappeliez les actes posés par le président Tshisekedi, le nouveau président du Congo, Félix Tshisekedi, depuis son installation au sommet de l'État, aux commandes de l'État. Mais alors, il y a cette question évidemment permanente, têtue. Hein. À quand le prochain gouvernement, le premier gouvernement du nouveau président ?
Le prochain gouvernement, c'est pour bientôt. Il faut, la Constitution nous exige la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée, l'identification des différents groupes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clairement aussi établi que la famille politique FCC a une présence majoritaire dans cette Assemblée. Donc, je ne crois pas qu'on doit prendre pour faiblesse le fait de cette réalité du scrutin de la députation nationale de 2018.
C'est une égalité politique. Hein.
Il y aura une faiblesse de la part du président Félix qui s'était dit, ou de l'UDPS, son parti politique. C'est une réalité qui est issue des résultats des élections législatives.
Est-ce que
il y aura nécessairement une cohabitation. Et, mais je préfère qu'on puisse nous juger aux actes. Et c'est ce que le peuple congolais attend. Jusqu'à présent, le président Tshisekedi est en train de poser les actes attendu par le peuple congolais.
J'ai des questions à vous poser, monsieur Chabani.
C'est en pleine exécution et c'est des actes réels que le peuple congolais apprécie partout où le programme est exécuté.
Voilà. Est-ce que le report hein, de signer des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs et aussi le fait qu'il y avait deux régions où les élections présidentielles avaient été reportées pour diverses raisons, est-ce que tout cela ne va pas retarder davantage la mise en place d'un nouveau gouvernement qui est pourtant attendu?
Non, ça n'a aucune incidence sur la mise en place formelle de l'Assemblée nationale. Donc ça n'aura aussi aucune incidence sur la sortie du prochain gouvernement avec la désignation d'abord du chef du Premier ministre et de la composition des chefs des différents départements.
Dans la suspension suspension de l'installation des sénateurs et le report sinédié des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs n'empêche pas, dites-vous, la formation d'un nouveau gouvernement. Parlons un peu à présent des conséquences politiques des mesures prises par le président Tshisekedi et sur lesquelles nous sommes revenus tout à l'heure. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, de même que le FCC, on l'a souligné, estime que ces mesures sont illégales et ne se justifient pas. Est-ce qu'à un moment ou un autre, l'UDPS ne risque pas d'être pris un peu en tenaille?
En tenaille par qui?
Puisque les adversaires...
Nous avons un scandale politique qui a été vécu par tout le monde au grand jour. Ce scandale est marqué par une criminalité qu'on appelle la corruption.
Oui, vous l'avez dit, vous avez suffisamment justifié ce report, cette suspension de l'installation des sénateurs et le report des gouverneurs. Vous dites que oui, c'est la corruption présumée qui a poussé le président à prendre ses décisions. Mais je parle des conséquences politiques, parce que là, vous avez une classe politique tout à fait mécontente et qui n'est pas d'accord avec ces mesures. Le FCC, qui est la première force de l'opposition, Francis le disait, le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas d'accord. Vous avez également contre vous, on peut dire, la CENCO, la conférence épiscopale, conséquence des présidentielles, des dernières présidentielles. Est-ce que tout cela ne va pas faire qu'à un moment donné, l'UDPS se retrouve un peu seul sur la scène politique, isolé?
La CENCO n'est pas contre nous. La délégation de la CENCO a rencontré le président Félix Tshisekedi au courant de cette semaine. Il y a eu un entretien très fructueux. Et je suis convaincu qu'elle va accompagner cette gouvernance pour l'intérêt du peuple congolais. Ce qui se passe, c'est que l'indicateur ici va à l'encontre des habitudes de la classe politique. L'une des promesses du président Félix qui s'était dit, c'est aussi moraliser cette classe politique pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, le peuple congolais soutient et est avec le président Félix Tshisekedi.
Dans le peuple congolais, pour vous, c'est votre bouée de sauvetage en cas de coup dur, en cas d'isolement sur la scène politique ou par la classe politique?
C'est le souverain primaire. C'est lui qui a mis en place, qui a désigné l'actuel chef d'État. Donc, aussi longtemps que nous sommes en phase avec le souverain primaire, nous restons convaincus que les autres forces politiques arriveront à comprendre que c'est pour l'intérêt du Congo, pour leur propre intérêt aussi, parce qu'il est important que tous ces méfaits, toutes ces antivaleurs puissent être éradiquées. Oui.
Jacquemin Chabani, est-ce que ce que vous appelez le scandale politique des sénatoriales, et dont nous parlons depuis le début de cette émission, est-ce que cela ne jette pas, au fond, un discrédit sur l'ensemble du processus électoral, y compris les législatives? On pourrait même remonter jusqu'à la présidentielle. Pourquoi avoir, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à contester aujourd'hui les sénatoriales, et qui ont été organisées par, évidemment, les mêmes organismes, les mêmes institutions, et avoir accepté, finalement, l'élection, les élections législatives et les provinciales en l'état?
Bon, la grande différence de tous ces scrutins, c'est que l'élection des gouverneurs et des sénateurs se fait avec les grands électeurs.
D'accord.
C'est-à-dire c'est un corps électoral suffisamment réduit sur lequel une criminalité comme la corruption peut facilement s'exécuter.
Et la législative ?
Au-delà de cela aussi, je peux accepter avec vous que nous avons une jeune expérience en matière électorale, avec des essais-erreurs qui se corrigent au fur et à mesure. Mais je crois qu'il y a une forte évolution. Nous avons un scrutin dans un contexte assez particulier, des contestations et des remarques, il y en a eu. Mais la loi, il y a une loi qui existe. Je crois que les candidats qui se sont sentis malaisés ont fait usage des recours judiciaires. Nous-mêmes, au sein de l'UDPS, nous avons introduit un bon nombre de recours en ce qui concerne la députation nationale et provinciale. On attend jusqu'à présent les arrêts des différentes cours compétentes quant à ceux. Au niveau des présidentielles aussi, tel a été le cas. Je crois que en ce qui concerne le système électoral, notre République est en train de faire une évolution graduelle. Et le fait déjà, parce que ça a été un grand combat de nous tous au niveau de l'opposition pendant plus de 2 ans, de plusieurs manifestations, nous avons arraché ce processus électoral. Nous avons ensemble protégé la Constitution en empêchant M. Kabila à se représenter. Nous nous sommes battus pour que l'alternance soit une réalité. Nous avons eu une grande victoire parce que c'est une alternance des forces de l'opposition.
Merci. Une question personnelle pour vous, M. Chabani.
Nous devons arriver à les stigmatiser.
Jacquemin Chabani, vous étiez vous-même candidat au sénatorial à Kinshasa avant de vous retirer. Vous aviez déclaré pour maximiser les chances en étant très stratégique, avez-vous dit. Finalement, le résultat est loin d'être favorable pour votre parti. Votre retrait n'a pas favorisé votre parti pour autant.
Exactement. Au-delà du fait que le scandale il est national, mais je crois que chaque organisation politique aussi a ses réalités dans ce scandale-là. Nous, au niveau de l'UDPS, par exemple, pour la province de Kinshasa, nous avions mis en place une stratégie électorale tenant compte des proportionnels, c'est-à-dire que nous avions aligné 3 listes. Moi, j'étais sur la 3e liste en tant qu'indépendant, pour maximiser les chances, comme je l'avais dit, mais aussi pour mieux contrôler nos grands électeurs. L'option avait été levée que je puisse me retirer au profit de la 2e liste qui était toujours un indépendant. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce scandale en termes de corruption. Ça nous permet à nous aussi, au sein du parti, d'avoir une meilleure vision sur le comportement de nos propres députés provinciaux.
Merci.
Une procédure disciplinaire est ouverte en interne. Ils seront auditionnés les uns après les autres. Les différents responsables aussi seront auditionnés. Je crois que nous
digérons
la thématique électorale.
Faut dire que Francis, si vous permettez, je vais quand même signaler pour information que pour la première fois, des militants de l'UDPS ont manifesté contre leurs propres élus qui ont été accusés d'avoir trahi la discipline du vote du parti en succombant à la tentation pour voter contre leur propre camp.
C'est au bénéfice de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ce peuple contrôlera ses dirigeants comme ça s'est toujours fait à l'UDPS depuis la création.
En 30 secondes, monsieur, une question qui préoccupe aussi les Congolais, c'est les émoluments des députés. Est-ce que le président va s'attaquer à ces émoluments de 6 000 $ par mois? À titre de comparaison, un policier ou un enseignant en RDC gagne 100 $ par mois. Est-ce que, en un mot, c'est une question à laquelle va s'attaquer le président?
Le président Félix Tshisekedi est un social-démocrate. Donc je crois que c'est des questions qui doivent nécessairement, qui le préoccupent. Il faut lui donner le temps au courant de son mandat. Je suis convaincu qu'on s'y penchera.
Merci.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Le grand témoin invité depuis Kinshasa au téléphone, Jacquemain Chabani, président de la commission électorale permanente, la CEP, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, en RD Congo, l'UDPS, le parti du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi. Notre confrère invité au téléphone depuis Bangui, Albert Mbaya, journaliste indépendant. En Centrafrique, nous allons justement en Centrafrique, hein, mercredi dernier, après 3 jours de discussion à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, sous l'arbitrage du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui. Les représentants du gouvernement centrafricain et ceux de 14 groupes armés ont trouvé un compromis pour mettre un terme à la brouille qui les oppose depuis début mars à propos de la composition du gouvernement. Rappelons que l'accord dit de la dernière chance signé début février à Khartoum au Soudan avait été très tôt mis à mal par le refus des groupes armés de participer au nouveau gouvernement dont ils ont dénoncé le caractère non inclusif. Les arrangements conclus donc cette semaine à Addis Abeba prévoient un remaniement du gouvernement au sein duquel plusieurs ministères régaliens seront confiés aux groupes armés, y compris 2 postes de vice-premier ministre. Autrement dit, la réinterprétation de l'accord de Khartoum vient d'être faite à Addis Abeba aboutit à un réel partage du pouvoir exécutif entre le pouvoir élu et les groupes armés. Première question pour vous, évidemment, Albert Mbaya, vous êtes à Bangui. À l'issue de ces négociations, la Addis Abeba, Albert, le porte-parole des 4 groupes armés a affirmé qu'avec ce nouvel accord, il laisse une petite chance, je cite, au Premier ministre et au président Faustin Archange Touadéra pour satisfaire leurs attentes. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre d'Addis Abeba se conclut par une victoire des groupes armés, Albert ?
Il faut dire tout de suite que après Khartoum, disons que pendant le débat à Khartoum, il y avait des problèmes qui n'avaient pas été clairement abordés. Et donc le pouvoir en place a eu la latitude de mettre en place un gouvernement qui a été automatiquement contesté. Et là, quand les gens sont partis à Addis Abeba pour discuter, en réalité c'était parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas clairement exprimé au mois de janvier à Khartoum. Voilà le dilemme de départ qui explique que l'ensemble des discussions et des contradictions qu'on a vécues par la suite. Mais là maintenant, avec la signature qui vient, enfin avec ce nouvel accord qui vient d'intervenir au niveau de, après les débats d'Addis Abeba, il faut dire que les groupes armés font clairement un chantage. Parce qu'en réalité, pendant qu'ils discutaient là-bas, leurs éléments sur le terrain ont recommencé les violences sur la population. Et donc, continuellement, il y a une pression sur le gouvernement. Et ce que les gens veulent, c'est d'infiltrer davantage le système politique du pays, d'occuper les postes stratégiques, parce qu'en arrière-plan, ils ont leur vision. Et quand ils disent qu'ils laissent un peu de chance au président et au premier ministre de satisfaire leur desiderata, mais en fait, c'est pour avoir le temps de mieux se positionner, parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui, mes chers confrères, il ne faut pas se faire des illusions, il y a des ambitions politiques. Et c'est ce qui n'est pas clairement dit.
Des ambitions politiques, c'est-à-dire la conquête du pouvoir d'État.
Mais rappelez-vous qu'en 2013, ces mêmes rebelles, parce que ce sont les mêmes, même si leur chef d'autorité avait parti, mais ces mêmes rebelles avaient signé le 11 janvier 2013 à Libreville un accord avec le président Bozizé, où c'était bien passé, comme maintenant. Ça ne les a jamais empêchés, 3 mois plus tard, de revenir conquérir la ville de Bangui par la force. Et donc, c'est un schéma plus ou moins similaire qui est en train de se dessiner, sauf que, moi, je pense que le président Touadéra et la classe politique actuelle ont bien compris le jeu qui se passe. Et donc, tout ce qui est dit, que ce soit Khartoum ou Addis Abeba, ce n'est pas le véritable problème. Ce que les groupes armés désirent depuis des années, les Centrafricains le savent très clairement, c'est de parvenir à arracher le pouvoir par la force. Et donc, tout le reste n'est que manège.
Donc, que d'accord donc signé pour venir à bout de la crise centrafricaine, rien jusque-là. Est-ce que vous, à vous entendre, vous donnez l'impression dans vos propos, Albert, que le pari que prend l'Union africaine ou qu'a pris l'Union africaine d'obtenir une paix définitive en Centrafrique est perdu d'avance ?
En tout cas, l'Union africaine est en train de s'acquitter d'un devoir. L'organisation africaine a fait de son mieux, on l'a vu. À travers le travail du panel, se battre pour réaliser la rencontre de Khartoum au mois de janvier dernier. En tout cas, ça a été félicité. Et lorsque les rebelles se sont mis à contester le gouvernement du premier ministre Grébada, rapidement l'Union africaine a réagi en convoquant des rencontres le 18 mars à Addis Abeba. En tout cas, on peut dire que c'est très bien. L'Union africaine fait ce qu'elle peut. Mais l'Union africaine ne pourra jamais réfléchir à la place des rebelles qui, eux, obéissent à des ordres. On le sait, en tout cas, tout le monde sait que derrière ces rebelles, il y a des gros bras. Voyez-vous?
Surtout qu'il y a des revendications des postes de des revendications des postes de souveraineté, voilà, qui risquent des postes de souveraineté que risquent à avoir ces groupes armés, les affaires étrangères ou les mines ou encore la sécurité.
Mais vous convenez avec moi que ces postes ne peuvent pas, en principe, rester sur la Constitution. Si on reste sur la Constitution, on ne peut pas comprendre. Des groupes armés viennent réclamer des postes qui sont stratégiques, des postes qui permettent à l'État de s'affirmer.
Oui, merci.
Entre le pouvoir légitime issu des urnes et le pouvoir, du moins le positionnement par les armes, qu'est-ce qu'on doit respecter? Donc là, il y a une mauvaise école aujourd'hui en Centrafrique, c'est qu'il suffit de prendre les armes pour revendiquer tous les postes politiques dans ces cas.
Mais donc vous pensez que l'Union africaine a eu tort de concéder, de procéder à ces concessions?
Non, l'Union africaine, en tout cas en intervenant, vise la paix. Parce qu'il fallait calmer les ardeurs de ces gens-là pour que la paix revienne. Dites-vous bien que ça fait 6 ans qu'il y a des massacres au quotidien dans toutes les villes arrière, dans les provinces de la RCA. Et donc l'Union africaine a travaillé pour que la paix revienne. D'abord après Khartoum, on avait déjà connu une sorte d'accalmie. Mais dès que le gouvernement a été mis en place et que les contestations ont commencé, les crimes ont repris dans les provinces. Donc, c'est pour dire que l'Union africaine ne peut pas être accusée ici. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais nous savons par expérience que ces rebelles qui ont signé 7 autres accords avant qu'ils n'ont jamais respecté, mais ne vont pas s'encombrer de violer même celui qui vient de signer à Addis Abeba.
Un commentaire de notre grand témoin invité, Jacquemin Chabani. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce partage du pouvoir de fait entre un gouvernement issu d'une élection et
on
des groupes
perdu,
armés?
On l'a perdu, Francis, on a perdu l'invité. Donc
il
n'est
plus pas là, l'invité. Oui, bon, oui. On va rester avec Albert Mbaya. Albert Mbaya, alors, il y a eu cette réaction du Premier ministre centrafricain Firmin Grébada au lendemain de la réunion d'Addis Abeba, jeudi dernier. Il disait ceci: aujourd'hui, je peux vous affirmer que ces malentendus ont été aplanis. Nous rentrons satisfaits des consultations à Addis Abeba. L'un des objectifs était de discuter des malentendus enregistrés suite à la publication du gouvernement. Alors, quand on entend ce genre de propos, Albert Mbaya, ce sont des propos d'un Premier ministre manifestement affaibli. Alors, question, que reste-t-il aujourd'hui du pouvoir du président élu Faustin Archange Touadéra?
Ça, c'est une très bonne question, parce que, en fait, le Premier ministre Firmin Grébada, je vous rappelle, a été l'homme clé des négociations de Khartoum en janvier dernier. Au cadre centrafricain, a travaillé dans les coulisses pour organiser et appuyer les travaux du dialogue de Khartoum qui ont permis finalement la signature de l'accord de paix du 6 février dernier. Et vous imaginez que c'est lui qui arrive au poste de Premier ministre et est automatiquement contesté par ceux avec lesquels il a travaillé un mois plus tôt à Khartoum. Du coup, la conscience que le président Faustin Touadéra lui a accordée était remise en cause. Donc, il était obligé de se remettre encore au feu et au moulin pour voir comment résoudre ce problème. Et donc, les débats qui ont eu lieu à Addis, à Abeba, on n'était pas sur les lieux, mais en tout cas, le premier ministre Grébada était obligé de revenir avec des résultats. Et donc, pour chercher, en tout cas, à planir les afin de créer un environnement qui pourrait éviter le naufrage.
Merci, Albert.
Le Khartoum, parce qu'en réalité, c'est ce processus qui continue. Mais en réalité, le premier ministre Grébada est conscient du fait qu'il y a des gens qui sont versatiles.
Merci. On va écouter notre invité qu'on a retrouvé, Monsieur Jacquemin Chabani, sur
Monsieur Jacquemin Chabani, vous êtes avec nous.
On l'a encore perdu, Francis. Je viens d'entendre le signal. Voilà.
Alors, donc, je vais relancer Albert qui n'a pas répondu précisément à la question de savoir que reste-t-il aujourd'hui du pouvoir du président Faustin Archange Touadéra.
Soyez bref, Albert, s'il vous plaît.
Le président Touadéra a désigné un Premier ministre. Mais la vérité aujourd'hui est que son pouvoir est sur la sellette à partir du moment où les groupes armés remettent en question tous les actes politiques qu'ils essaient de poser depuis 4 ans. Et donc, on peut dire qu'il y a une menace qui pèse sur ce pouvoir. le pouvoir va, enfin, connaître forcément une période de faiblesse. Et là, il lui appartient à lui et au Premier ministre de trouver la meilleure formule pour redorer leur blason et surtout résoudre à la base le problème de l'insécurité, parce que c'est là-dessus que les groupes armés jouent continuellement. Comme
merci
ils ont
beaucoup.
Fait,
sécurité signifie désarmement et nous allons en parler juste après avoir écouté M. Chabani qu'on a retrouvé à nouveau. M. Chabani, un bref commentaire sur ces accords de paix à Khartoum qui cette fois prévoient la mise en place d'un gouvernement plus inclusif d'ici lundi à mardi prochain.
Oui, je crois qu'il est important de prendre en compte toutes les parties prenantes, arriver à cette inclusivité pour une gestion consensuelle de toutes les parties, de manière à les mettre ensemble pour l'organisation d'un gouvernement. Et le plus important en Centrafrique, c'est de réunir toutes les forces vives du peuple centrafricain qui s'est divisé.
Oui, on parle de réconciliation, on parle de paix, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de désarmement.
Mais à partir du moment où on arrive à la mise en place de ce gouvernement où toutes les parties prenantes y font partie, ils devront nécessairement tabler sur la mise en place de la constitution de l'armée nationale, ce qui voudra débouchera sur des programmes de désarmement, de réinsertion des forces, des différentes forces.
Merci.
C'est pour ça qu'il est important de bien respecter cette inclusivité.
Francis...
De ne laisser personne, aucun groupe en dehors de l'accord et de la gestion de la Centrafrique.
Merci. Francis, on a retrouvé Albert, qui va peut-être conclure en une minute le sujet sur la Centrafrique avec cette question sur le désarmement dont on n'a pas entendu beaucoup parler, Albert, rapidement.
Oui, mais, quand on parle de désarmement, il faut qu'on identifie les acteurs qui sont impliqués dans le problème de l'insécurité en RCA. On n'en parle pas beaucoup parce que justement, c'est un sujet qui, en fait, aujourd'hui, commence par échapper aux uns et aux autres. Même l'Union africaine ne pourra pas en réalité trouver une solution à ce problème. Le programme DDR dont on parle aujourd'hui ne date pas d'hier. Ça a été essayé sous Patassé, ça a été essayé sous Brisé, ça revient. Mais en fait, le fond du plan du désarmement est que la plupart des leaders des groupes de rébellion centrafricains sont d'origine étrangère. Ce sont des gens qui nous arrivent du Niger, qui viennent du Tchad, qui viennent de la Mauritanie, qui viennent de partout, sauf de la RCA. Nous avons certes quelques leaders de rébellion centrafricaine, mais qui en fait sont des gens aujourd'hui qui ont déposé les armes. Mais ceux qui sont restés actifs et qui massacrent au quotidien, mais si vous faites la cartographie et si on étudie leurs origines, vous vous rendrez compte que c'est des gens qui viennent tous de l'étranger.
Merci.
Alors, donc ça rend du coup difficile le plan de désarmement parce qu'ils ont des connexions qui sont en dehors de la RCA. Donc c'est pour vous dire que même ce gouvernement qu'on va fabriquer pour satisfaire les appétits de tous ces rebelles-là ne va pas résoudre ce problème parce que tous les gens qui vont entrer au gouvernement, ben, chacun va conserver son circuit, son réseau d'armement qui est à l'étranger et donc le plan de RCA devient en réalité plus complexe.
Vous êtes très pessimiste en somme quant à une paix définitive en Centrafrique. Francis, on passe au dernier sujet, le Cameroun. Au-delà du cadeau jugé par certains embarrassant du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, au président camerounais qu'il a reçu lundi. En rappel, il s'agit de la photo d'une audience entre les présidents Biya et Bush père en 91. Au-delà donc de cette image, le diplomate américain est arrivé dans un pays en grave crise, d'abord politique avec la détention du leader de l'opposition, Maurice Kamto, et surtout crise sécuritaire marquée par des violences et rapts devenus quasi quotidiens dans les deux régions anglophones du Cameroun. Tibor Nagy a qualifié de très pénible des images du gouvernement du Cameroun venant de ces régions avant de déclarer: les États-Unis ont été au Vietnam pendant plusieurs années avec des soldats, des équipements de pointe, mais ils ont perdu. Ma question s'adresse à vous d'abord, M. Chabani. Est-ce que par ces propos, on doit comprendre que les Américains demandent clairement à M. Biya d'abandonner l'option militaire au profit du dialogue avec les sécessionnistes anglophones? Et est-ce que cette solution de Washington va passer au niveau des autorités camerounaises?
Bon, je crois que la position des États-Unis d'Amérique est une grande interpellation. il y a un énorme déficit de démocratie et de dialogue au niveau du Cameroun qui est à la base de toutes ces difficultés et de ces mouvements sécessionnistes. Il est important que le dialogue soit prime sur tout le reste pour trouver des solutions, que les uns et les autres s'écoutent pour des solutions consensuelles. Le cadeau, je crois, qui a été offert au président camerounais est très significatif. Il a une longévité au pouvoir qui inonde même toute volonté de démocratie et de liberté d'expression. Donc il devrait s'ouvrir et préparer cette transition, céder le pouvoir et permettre au Cameroun de vivre autrement.
Merci. Francis ?
Oui, alors une question peut-être pour Albert Mbaya. Albert Mbaya, on voit bien que les États-Unis ont changé d'approche, hein, parce qu'il y a quelques mois, les États-Unis, évidemment, recommandaient plutôt à Paul Biya de ne pas briguer un autre mandat. Alors le cadeau dont vient de parler Liliane peut aussi peut-être rappeler, je dirais, cette position américaine. Mais on voit bien que désormais, ce sont les formules plutôt diplomatiques que les Américains, dont ils usent en tout cas vis-à-vis de leurs homologues, de leurs interlocuteurs camerounais. Est-ce que ça démontre une fois de plus que les États n'ont pas d'amis, mais ont surtout des intérêts ?
Collègue, je pense que le problème du Cameroun relève de l'évidence. Le président Biya, ça fait comme des décennies qu'il est au pouvoir. Avec la crise qui se passe aujourd'hui dans le nord du Cameroun, il est évident
qu'il
fallait commencer par, en tout cas, donner les informations, donner les positions pour que le président Biya comprenne qu'il faut se préparer à passer. Je pense que la crise anglophone est l'expression des ras-le-bol par rapport à un régime qui n'a que trop duré. Et donc les Américains, je pense qu'ils ont trouvé là le moyen, en tout cas de dire de manière très diplomatique à Paul Biya que le temps est venu de commencer vraiment à préparer le terrain pour s'en aller. Le message est clair.
Vous voulez dire donc que dans cette configuration, pour les Américains, Paul Biya demeure le problème et non pas la solution pour notamment la crise anglophone, dite anglophone?
Il est le problème, comme dans d'autres chefs d'État africains qui n'ont jamais imaginé cet instant qu'une fois arrivé au pouvoir, il faudrait se préparer à partir. Et il faudrait un jour qu'il y ait l'alternance au Cameroun, sinon la région anglophone va rester en ébullition et il fallait empoisonner la sous-région, surtout que nous avons déjà la RCA à côté qui a des problèmes, le cadre qui n'est pas stable, et si le Cameroun devait s'ajouter, ça va faire le brasier dans la sous-région.
Sans compter le Nigeria voisin aussi.
Bien sûr.
Mais est-ce que l'appel au dialogue lancé par les États-Unis a des chances d'être suivi, puisque pour le moment, le gouvernement camerounais privilégie l'option militaire?
En tout cas, l'option militaire, on l'a observée depuis déjà quelques deux ans, et avec toutes les tueries qui sont enregistrées dans le Nord, et ça n'a pas donné de résultats. Et il est évident que lorsque, même si les États-Unis demandent le dialogue, connaissant les mentalités en Afrique centrale, connaissant les régimes politiques de l'Afrique centrale, en tout cas, c'est une zone qui est particulière, qui est connue pour être l'endroit où les gens ne veulent pas discuter. C'est pour ça que les changements ont toujours été, je dirais,
la résistance. La résistance.
Et là, il est évident que ça ne passera pas à ce message. Hein.
Merci beaucoup. Francis,
Alors, il y avait un élément intéressant dans cette visite de Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères, parce que en commentant l'actualité camerounaise, il a considéré que Maurice Kamto, l'opposant Maurice Kamto et ses alliés qui sont aujourd'hui incarcérés, sont des prisonniers politiques. Jacquemin et Chabani, comment vous appréciez ce qui peut être considéré comme une prise de position très claire des Américains?
Oui, ça apparaît comme une prise de position très claire et je crois que c'est un moyen de pression sur le gouvernement camerounais partenaire aux États-Unis pour l'amener à un peu plus d'ouverture sur le plan démocratique, à considérer les opinions des opposants, les opinions contraires. Comme il a été dit tout à l'heure, il est important que le Cameroun connaisse une nouvelle page et cela ne peut venir que par le dialogue, l'écoute des uns et des autres. Je crois qu'il faudrait que l'Union africaine, que les pays de la sous-région s'impliquent aussi dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages des internautes, de nos amis sur Internet. Messages recueillis et livrés par Richard Thierry Mbouekidjina. Tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. République démocratique du Congo, Christian Mukadi affirme que le président Félix Tshisekedi réussira dans sa mission à la tête du pays. Et afin de confirmer son point de vue, notre auditeur de Lubumbashi nous rappelle que le successeur de Joseph Kabila dirige le pays depuis plus de 100 jours sans gouvernement. Fabrice Amina, pour sa part, appelle le chef de l'État congolais à suivre les conseils de Joseph Kabila. Et Silena Abbé demande à notre invité de nous dire qui de Félix Tshisekedi ou de Joseph Kabila dirige le pays. Sur la Centrafrique, Marcel Batende Iriba pense que la paix ne s'impose pas et ce sont les négociateurs qui enveniment le plus souvent la crise. Pour Bessam Tegoto Rodrigue, l'Union africaine et le président Archange Touadéra n'arrivent plus à s'accorder sur les stratégies à implémenter pour une sortie de crise. Balde Amadou Bailo Colette, de son côté, affirme que l'Union africaine est une institution faible depuis la crise en Libye. Et enfin, sur le Cameroun, Maurice Ndjontou soutient que les Camerounais n'accepteront jamais le désordre, encore moins l'ingérence des États-Unis. Merci à Joseph Kadima Kabengele, Patrick Yala et Chirac Mukendi qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était merci Richard Thierry Mbouekidjina. Merci. Francis, je vous laisse conclure avec l'invité.
Alors, Jacques Chabani, vous voulez une conclusion générale pour toutes ces questions posées par les auditeurs. C'est une tradition de l'émission.
Bon, nous venons de parler de trois pays, grands pays africains avec leurs particularités, leurs difficultés, mais je crois qu'elles se résument dans le dialogue et la démocratie. La République démocratique du Congo a connu ou connaît peut-être encore certaines réalités des pays comme la Centrafrique et le Cameroun en ce qui concerne des groupes armés incontrôlés, la nécessité d'un dialogue. Nous avons eu la chance de mener un combat pacifique pour arracher un processus électoral pour le respect de la Constitution. Le Congo vient de vivre un grand événement avec une alternance pacifique et démocratique des forces du changement. Aujourd'hui, elle a un nouveau président avec une nouvelle vision, une vision de démocratie. Et je l'espère et aussi pour les pays sur lesquels nous sommes penchés aujourd'hui, qu'ils arrivent à passer le cap et à vivre mieux.
Merci beaucoup. Merci à vous, Jacquemin Chabani. Vous êtes notre grand témoin dans cette édition. Président de la commission électorale permanente, dite centrale électorale de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti du nouveau président de la RD Congo, Félix Tshisekedi. Merci à notre confrère Albert Mbaya qui est avec nous au téléphone depuis Bangui. Albert Mbaya, journaliste indépendant. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard. Chargé de production, Richard Thierry Mbouekidjina. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous.
Merci à vous, Francis. Bonne semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.
Au revoir.
Au revoir.